Mauricie se lève. Votre source d'information le matin. Voici Catherine Gaudreau. Que la Mauricie se lève. Au 106.9 Mauricie.
Bonjour, Maître Rascot.
Bonjour.
Bonjour. Expliquez-nous. Donc, il y a une requête qui a été déposée lundi. Oui. Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Bien, on demande. C'est une demande en habeas corpus. Ça vient du droit anglais. Ça fait plusieurs centaines d'années que ça existe. C'est que faut comprendre, si je vous permettais de faire un petit peu un historique de ce que c'est, là, c'est que au début, le roi, si vous prenez l'exemple d'un roi au Moyen Âge, il détient tous les pouvoirs. Alors, il rend justice, il peut faire des lois, puis il peut exécuter tous les pouvoirs de l'exécutif. Alors, ça, c'est un roi qui est souverain. Et à un moment donné dans l'histoire, les sujets britanniques en ont eu assez, puis on dit si vous voulez continuer à être notre roi, ben vous allez limiter vos pouvoirs. Alors ça, c'est la Magna Carta. Et un de ces limitations-là, c'était là, si vous voulez nous limiter dans nos libertés, comme nous emprisonner ou faire d'autres choses comme ça, ben il va falloir que vous ayez une ça soit légal, premièrement, puis ensuite, il va falloir que vous soyez capable de justifier de façon raisonnable vos agissements. Et pour ça, ben ils ont développé ce qu'on appelle un bref d'habeas corpus. C'est que c'était devant un juge qui allait être indépendant, qui allait pouvoir voir si l'État avait effectivement le droit de le faire et si sa mesure était raisonnable. Alors ça, c'est le test d'un État de droit. C'est qu'il faut que le gouvernement, lorsqu'on démontre qu'il y a une limitation au droit de la liberté qui est faite d'une personne, ben là, il faut que le fardeau revient à l'État de démontrer que sa mesure est légale et qu'elle est raisonnable et proportionnelle.
OK.
Alors
Oui, non, allez-y, complétez.
C'est correct. Mais au niveau, c'est parce que là, il y a deux éléments là-dedans. Le premièrement, au niveau de la légalité. Alors, faut comprendre que les décrets sont adoptés en vertu de la loi sur la santé publique. L'article 119 de la loi sur la santé publique permet la déclaration d'un état d'urgence par le gouvernement, donc seulement le Conseil des ministres, pour des périodes de 10 jours. Et ils peuvent être renouvelés. Mais ce que la loi prévoit aussi, c'est que le gouvernement veut un horizon de plus que 10 jours, de 30 jours, là, il faut qu'il y ait l'assentiment de l'Assemblée nationale. Et c'est clair qu'au 23 mars, lorsque le ministre de l'Éducation et le premier ministre nous ont dit que les écoles allaient être fermées jusqu'au 4 mai, là, ce n'était plus un horizon de 10 jours. Là, il savait qu'il allait prendre des mesures attentatoires aux libertés pour une période de plus que 30 jours. À ce moment-là, il devait avoir l'assentiment de l'Assemblée nationale. Et c'est pas pour rien que dans la loi, c'est prévu qu'ils doivent avoir l'assentiment de l'Assemblée nationale. C'est que lorsqu'on touche aux droits et libertés de l'ensemble de la population comme ça, il faut être capable de subir ce qu'on appelle un débat démocratique. Alors, normalement, c'est lors d'un débat qu'on espère en démocratie que on va arriver à une solution qui est meilleure pour tout le monde. C'est ça l'objet de la démocratie, c'est que le choc des idées, puis on pose des questions, puis on a des réponses, puis on avance comme ça. Le problème qu'on a maintenant, c'est que le système démocratique est défaillant. Les oppositions officielles ne font plus du tout leur travail. Il n'y a plus d'Assemblée nationale, ils posent plus de questions, et là, on a un gouvernement qui s'autorise à renouveler des décrets en période de 10 jours. Si on prend le raisonnement, on pourrait être comme ça en isolement pendant un an et demi avec des décrets de 10 jours.
Alors ça marche pas. Vous demandez aux tribunaux d'annuler les décrets et les arrêtés du gouvernement, c'est bien ça?
C'est ça, parce qu'ils ont été adoptés de façon illégale. Le gouvernement ne peut pas le faire par décret comme ça. Il fallait qu'il passe par l'Assemblée nationale. Vous savez, la démocratie, c'est pas pratique. C'est compliqué comme système. Il faut que les gens votent. Il faut que les gens se réunissent, on a fait ça pas pour que ça soit pratique pour le gouvernement, la démocratie, c'est pour protéger les gens.
OK. Donc là, ça a été déposé, lundi dernier. On en a pour combien de temps avant que ce soit débattu, que la cause soit entendue officiellement, Maître Rascot?
Bien, on a une date de présentation vendredi. Ça a été signifié, j'ai poursuivi encore de comparution, alors je peux pas vous dire, mais moi je vais être disponible pour, parce qu'il faut comprendre, là, moi je suis pas le juge, moi je suis une partie, je suis le demandeur, et moi je respecte l'autorité des tribunaux, je respecte la primauté du droit, alors moi là je vais me soumettre au processus judiciaire, je vais y participer, je vais aider le procureur général pour faire avancer le dossier le plus rapidement possible, parce que je pense que c'est une cause d'intérêt public, et je vais me soumettre aux décisions des tribunaux. C'est ça l'état de droit, c'est que tout le monde est soumis à la loi. Et moi, je veux que le gouvernement aussi soit soumis à la loi. Alors, c'est ça un état de droit.
OK. Il y a un aspect que j'ai peut-être moins bien compris. Je lisais des articles ce matin, notamment celui de la presse, qui disait que votre requête va plus loin. Elle accuse le gouvernement d'utiliser une crise fabriquée pour modifier la société. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, moi, je me pose des questions. J'ai pas les réponses à ça, mais je me pose des questions. Quand on regarde, il y a certaines déclarations du docteur Arruda puis du premier ministre qui... Parce que faut comprendre, là, à ce moment-ci, la raison pour laquelle on nous a mis en confinement, c'était pas pour empêcher les gens de devenir malades, c'était pas pour empêcher les gens qui allaient d'en mourir, c'était pour aplanir la courbe. Quel était l'objectif d'aplanir la courbe? C'était de permettre au système de santé de faire face aux demandes de traitement au fur et à mesure que les gens allaient tomber malades. Okay? Alors, c'était ça l'objectif, c'est d'aplanir la courbe. Là, faut comprendre que les projections initiales étaient basées sur des chiffres qui étaient erronés. L'affaire qui arrive, c'est qu'on ne veut pas nous les fournir, les estimés qu'il y avait au 13 ou 14 mars. Ils ne veulent pas. Okay. Vous avez vu dans conférences de presse, les journalistes l'ont demandé à maintes reprises, puis jamais ils veulent le fournir.
Mais attendez, Maître Rascot, je vous arrête 30 secondes, je fais une parenthèse. Donc, quels sont les chiffres qu'on nous a présentés dans les scénarios pessimistes et optimistes seraient erronés? Est-ce que je comprends bien?
Ben oui. D'ailleurs, vous le voyez même dans le... Je pense qu'il y a deux jours, le premier ministre Legault nous a dit qu'il avait estimé, puis là on parle d'estimer avec confinement, là. Je ne parle pas de on ne faisait rien. Estimer avec confinement, il pensait qu'il allait avoir jusqu'à 8000 personnes hospitalisées en même temps. Là.
Oui,
alors, on n'est pas là. Il pensait même qu'il allait avoir plus de 450 à 500 personnes qui allaient être hospitalisées aux soins intensifs en même temps.
Ben, en fait, mais Maître Rascot, en effet, là-dessus, on s'est trompé. C'est que le problème, il est dans les CHSLD.
Parce que ce matin, l'article de la presse conjoint nous dit
qu'on n'a même pas les vrais chiffres, que c'est pire que ce qu'on nous donne actuellement dans les CHSLD. Donc,
c'est malheureux, mais ça va être pire encore. Parce que les vraies personnes qui sont à risque par cette maladie-là, et puis ça, c'est pas moi qui vous le dis, là. Même M. Arruda, le docteur Arruda, puis même le premier ministre vous le dit, la majorité des gens ne sont pas en danger. Les enfants ne sont pas en danger. Ceux qui sont en danger, c'est les personnes qui ont déjà des maladies chroniques. Et il faut comprendre une chose, c'est que dans les CHSLD, là, c'est des études du gouvernement. Là. Moi, je vous apprends rien, je prends juste... Il y a 24% des gens qui ont 6 mois à vivre. Alors, c'est des gens qui sont très malades, qui sont à l'article de la mort. Mais si vous les mettez en contact, parce que les gens qui travaillent dans les CHSLD, c'est des gens de bonne foi, ils travaillent pour... Je salue leur travail, là, ils travaillent bien. La seule chose, c'est qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient malades, ils sont asymptomatiques. Et on leur a pas fourni d'équipement pour protéger les gens malades. Ils allaient traiter des gens qui sont très faibles.
Je vous allez me permettre de vous reprendre sur un aspect. Je comprends. Les gens dans des CHSLD, bien évidemment, c'est des gens plus âgés, dont la santé parfois est précaire. Mais là, c'est pas tous des gens... en fin de vie ou qui...
Il y en a 24% qui restent 6 mois à vivre.
OK. Mais donc, vous basez là-dessus, vous amenez ces chiffres-là sur l'espérance de vie normale des CHSLD. Donc, vous utilisez ces chiffres-là dans votre requête, je comprends bien, c'est ça?
Oui, ça fait partie. J'ai 109 pièces. Il va y en avoir d'autres parce que les études continuent à sortir d'un peu partout. Puis la chose qui arrive, c'est que on se rend compte, puis même en Californie, on se rend compte que le virus était là depuis longtemps. Là, il était même là au début de février qu'ils ont retracé les premiers morts. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il circule le virus depuis longtemps. Il se répand facilement parce qu'il y a beaucoup de gens asymptomatiques. Mais la réalité, c'est que ceux qui sont en danger, puis ça, on le sait très clair depuis, puis on le voit même en Italie, là, les personnes qui en décèdent, c'est des gens de 80 ans qui ont des facteurs de prémorbidité, donc des gens qui sont déjà très malades. Et on n'a pas protégé ces gens-là. C'est ces gens-là qu'il fallait protéger.
Je comprends. Maître Rascot, on risque de se reparler. Merci de nous avoir expliqué ça ce matin.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Merci, au revoir. L'avocat Maître Jean-Félix Rascot qui a déposé cette semaine une requête à la Cour supérieure. Alors, un avocat qui demande aux tribunaux d'annuler les décrets et les arrêtés du gouvernement adoptés pour combattre la COVID-19, notamment le confinement, ce qui a fermé les écoles, les rassemblements, ou qui a mis sur pause des pans entiers de notre économie. Alors voilà, c'est ce qu'il nous résumait ce matin.